4. Il ne dormit pas longtemps avant de se faire réveiller par les cris enthousiastes de Patrick, qui, comme un gosse, voulait lui montrer le premier dessin qu'il avait fait de la rose. À en juger par la position du soleil, il s'était écoulé à peine 10 minutes, 15 tout au plus. Comme tous ses dessins, celui-ci détenait un pouvoir étrange. Patrick avait capturé l'essence même de la rose, bien qu'il n'eût pour tout outil qu'un crayon. Pourtant, Roland aurait largement préféré une heure de sommeil supplémentaire à cet exercice de critique d'art. Il hocha néanmoins la tête pour signifier son approbation. « Fini de râler et de ronchonner en présence d'une telle beauté, » se promit-il. Et un sourire illumina le visage de Patrick, heureux de si peu de choses. Il écarta le dessin et en recommença un autre. Un dessin pour chacun d'eux, exactement comme Roland le lui avait demandé. Roland aurait pu s'assoupir encore quelques instants, mais à quoi bon? Le muet aurait fini le second dessin en quelques minutes et le réveillerait très vite. Il décida donc d'aller trouver Othé et caressa la fourrure dense du bafouilleux, chose qu'il faisait rarement.
« Je suis désolé de t'avoir parlé durement, petit bonhomme, » dit le pistolero. « Tu ne veux pas me dire un mot pour faire la paix ?»
Mais Othé ne voulait pas. 15 minutes plus tard, Roland emballa de nouveau les quelques affaires qu'il avait sorties du chariot, se cracha dans les paumes et s'empara de nouveau des poignets. Le chariot était plus léger à présent, forcément. Pourtant, il lui paraissait plus lourd.
« Bien sûr qu'il est plus lourd, » se dit-il. « Il y a ma peine dedans maintenant. Je le tire derrière moi partout où je vais, je dis vrai. »
Bientôt, Patrick Danville monta également à bord d'Ophat II. Il se hissa à l'arrière, se confectionna un petit nid et s'endormit presque immédiatement. Roland se remit en marche de son pas lourd, tête baissée, son ombre de plus en plus longue à ses talons. Othé marchait à ses côtés.
« Plus qu'une nuit, » pensa le pistolero. « Plus qu'une nuit, une journée ensuite et tout sera fini, d'une manière ou d'une autre. »
Il laissa le pouls de la tour et le chant de ses multiples voix lui envahir l'esprit et mettre des ailes à ses bottes. Un petit peu, du moins. Il commençait à y avoir plus de roses, des dizaines éparpillées de part et d'autre de la route, illuminant le paysage plutôt morne. Quelques-unes poussaient sur la route même et il veilla à les contourner. Il avait beau être épuisé, il n'aurait pas voulu par négligence en écraser une seule ou ne serait-ce que rouler sur un pétale tombé. 5. Il s'arrêta pour la nuit alors que le soleil était encore haut au-dessus de l'horizon, trop épuisé pour aller plus loin, bien qu'il leur restât au bas mot 2 heures de lumière. Il trouva un cours d'eau asséché, dans le lit duquel poussait un essaim sauvage de ses roses splendides. Leur chant ne soulagea pas sa fatigue, mais dans une certaine mesure il lui remonta un peu le moral. Il eut le sentiment qu'il en allait de même pour Patrick et Othé, et c'était une bonne chose. Lorsque Patrick s'était réveillé, il avait commencé par jeter des regards fascinés alentour. Puis son visage s'était assombri, et Roland avait compris qu'il se remémorait subitement que Susanna était partie. Sur le coup, le garçon avait un peu pleuré, mais peut-être ne pleurerait-il plus. Il y avait un bosquet de peupliers sur la rive. Du moins, le pistolero pensait qu'il s'agissait de peupliers, mais ils étaient morts lorsque le cours d'eau qui baignait leurs racines avait disparu. Leurs branches faméliques brandissaient leurs entrelacs dénudés sur fond de ciel. Dans leur silhouette, ils voyaient se dessiner le nombre 19 encore et encore dans les chiffres de son monde à lui, mais aussi dans ceux du monde de Susanna. À un endroit, les branches avaient même l'air d'écrire « vol » sur le ciel qui s'obscurcissait. Avant de faire le feu et de leur préparer un souper précoce, les boîtes de conserve récupérées dans le garde-manger de Dandelot feraient bien l'affaire ce soir, se dit-il. Roland descendit dans le lit asséché de la rivière pour aller respirer les roses, vagabondant lentement le long des arbres morts en écoutant leur chant. Tant le parfum que le chant le revigorèrent. Se sentant un peu mieux, il partit ramasser du bois au pied des arbres, cassant certaines des branches basses de belle taille, faisant voler des éclats qui lui rappelaient un peu les crayons à papier de Patrick, et empila le petit bois au centre. Puis il gratta une allumette, en entonnant ce vieux catéchisme presque sans l'entendre. « Fuse, fuse, belle étincelle, que ton feu réchauffe ma tanière. » Tandis qu'il attendait que le feu prenne, puis se réduise à un lit de braise rosée, Roland sortit la montre qu'on lui avait donnée à New York. La veille, elle s'était arrêtée, bien qu'on lui ait assuré que la pile qui la faisait marcher durerait au moins 50 ans. À présent, alors que la fin de l'après-midi avançait sereinement vers le soir, les aiguilles s'étaient doucement mises à tourner à l'envers. Fasciné, il observa la pénombre pendant un petit moment, puis referma le clapet et examina les sigles gravés dessus. Clé, rose et tour. Une faible lueur bleue cobalt s'était mise à scintiller des fenêtres qui escaladaient la tour en spirale.
« Il ne savait pas que ça se produirait, » se dit-il.
Puis il replaça soigneusement la montre dans la poche avant gauche de son pantalon, vérifiant d'abord, comme il le faisait toujours, qu'il n'y avait pas de trou au fond. Puis il cuisina. Lui et Patrick mangèrent de bon cœur. Ôté n'avala pas une seule bouchée. 6. Mis à part la nuit de palabre passée avec l'homme en noir, cette nuit durant laquelle Walter lui avait tiré les cartes avec son jeu de tarot sans doute truqué, ces 12 heures d'obscurité près du ruisseau asséché furent les plus longues de la vie de Roland. La lassitude s'abattit sur lui, plus profonde et plus sombre que jamais, jusqu'à peser comme un manteau de pierre. D'anciens visages et d'anciens lieux défilaient devant ses yeux lourds. Suzanne, galopant à bride abattue le long de l'aplomb, ses cheveux blonds flottant derrière elle. Cuthbert, dévalant la colline de Jericho Hill, à un train d'enfer lui aussi, en vociférant et en riant. Alan Jones, levant son verre pour porter un toast. Eddie et Jack se battant dans l'herbe en hurlant de rire, tandis qu'Otté dansait autour d'eux en jappant. Mordred était là quelque part, non loin. Pourtant, Roland se sentait sans arrêt glisser vers le sommeil. À chaque fois qu'il se réveillait en sursaut, les yeux écarquillés, scrutant fébrilement les ténèbres, il savait qu'il avait frôlé de plus près l'inconscience. À chaque fois, il s'attendait à voir l'araignée avec sa marque rouge sur le ventre fondre sur lui. Mais il ne voyait rien d'autre que les hobs et leur halo orange dansant au loin. Il n'entendait rien d'autre que le murmure du vent.
« Mais il est là. Il attend son heure, et si je dors, quand je dormirai, il s'abattra sur nous. »
Vers 3 heures du matin, par la seule force de sa volonté, il s'obligea à se tirer d'une somnolence qui s'apprêtait à basculer dans le sommeil profond. Il scruta désespérément les alentours, se frottant les yeux avec la base du poignet, assez fort pour faire exploser des miarses, des flambilles et des sainte-fites dans son champ de vision. Le feu avait beaucoup baissé. Patrick était étendu à 5 ou 6 mètres de lui, au pied tordu d'un peuplier. De là où Roland était assis, le garçon n'était qu'une bosse recouverte d'une peau de cerf. Il ne vit pas trace d'Otté. Le pistolero appela le bafouilleux, mais ne reçut pas de réponse. Roland s'apprêtait à aller inspecter les lieux lorsqu'il aperçut le vieil ami de Jack juste à la limite de la zone éclairée par le feu mourant. Ou du moins, aperçut-il la lueur dorée de ses yeux. Ses yeux fixèrent Roland pendant quelques secondes, puis disparurent. Sans doute lorsque Otté glissa sa truffe entre ses pattes avant.
Il est fatigué lui aussi, se dit Roland. Et quoi d'étonnant?
La question de savoir ce que Otté allait devenir après le lendemain commença à se faire jour à la surface de la conscience du pistolero, de sa conscience épuisée, et il l'écarta. Il se leva, dans sa grande fatigue, il sentit qu'il portait instinctivement les mains à la hanche qui le faisait autrefois souffrir, comme s'il s'attendait à ce que la douleur renaisse, s'approcha de Patrick et le secoua pour le réveiller. Il lui fallut un moment, mais le garçon finit par ouvrir les yeux. Ça ne suffisait pas au pistolero qui l'attrapa par les épaules et le tira en position assise. Lorsque le jeune garçon essaya de se rallonger, Roland le secoua fort. Patrick posa sur Roland un regard lourd d'incompréhension.
« Aide-moi à refaire du feu, Patrick. »
Cette tâche le réveillerait un peu. Et une fois que le feu brûlerait à nouveau haut et fort, il ferait monter brièvement la garde à Patrick. Roland n'aimait pas beaucoup cette idée, et il savait pertinemment que laisser Patrick responsable du tour de guet était dangereux, mais essayer de tenir lui-même tout le reste de la nuit était plus dangereux encore. Il avait besoin de sommeil. Une heure ou deux suffirait, et Patrick pouvait à n'en pas douter rester éveillé ce temps-là. Patrick contribua volontiers à ramasser du bois et à le jeter dans le feu, bien qu'il eût la rapidité d'une bougie, un corps ranimé dans le jargon de Gilead. Et lorsque le feu fut de nouveau vaillant, il se recroquevilla dans son coin, ses jeunes bras pendant entre ses genoux cagneux remontés à hauteur du menton, déjà plus endormi qu'éveillé. Roland se dit qu'il lui faudrait peut-être gifler le garçon pour le ramener à lui, et il devait bientôt regretter, amèrement, de ne l'avoir pas fait.
« Patrick, écoute-moi, » dit-il en secouant le garçon par les épaules, assez fort pour faire voler ses cheveux autour de son visage.
Mais une partie lui retomba dans la figure. Roland les écarta d'un geste de la main.
« J'ai besoin que tu restes éveillé et que tu montes la garde. » Rien qu'une heure, juste le temps que... Je lève les yeux, Patrick. Regarde-moi. Par les dieux, ne t'avise pas de te rendormir comme ça. Est-ce que tu la vois?
L'étoile la plus brillante parmi celles qui sont près de nous. C'était de la vieille mère que parlait Roland, et Patrick hocha immédiatement la tête. Une lueur d'intérêt pointait désormais dans ses yeux, ce que le pistolero trouva encourageant. C'était le regard « je veux dessiner » de Patrick. Et s'il restait assis là à dessiner la vieille mère qui scintillait entre deux branches du plus gros peuplier mort, alors il y avait de bonnes chances pour qu'il restât éveillé. Peut-être même jusqu'à l'aube, s'il s'impliquait vraiment.
« Là, Patrick !»
Il fit asseoir le garçon contre la base du tronc. Il était osseux et noueux, et espéra Roland. La posture était assez inconfortable pour ne pas lui donner envie de se rendormir. Et Roland avait l'impression de faire tous ses mouvements comme sous l'eau.
Dieu qu'il était fatigué, tellement fatigué. « Tu la vois toujours, l'étoile ?»
Patrick hocha la tête avec gourmandise. Il semblait avoir jeté son envie de dormir aux orties, et le pistolero remercia les dieux de cette faveur inattendue.
Lorsqu'elle passera derrière cette grosse branche, et que tu ne la verras plus, ou que tu ne pourras plus la dessiner sans te lever, alors viens me réveiller. Réveille-moi même si c'est très difficile, tu comprends ?
Patrick hocha à nouveau vigoureusement la tête, mais Roland voyageait avec lui depuis assez longtemps maintenant pour savoir que ce hochement de tête pouvait signifier tout et son contraire. Il avait envie de faire plaisir, ça oui. Si on lui demandait si 9 et 9 faisaient 19, il opinerait avec le même enthousiasme.
« Quand tu ne pourras plus la voir de là où tu es assis. »
À présent, même ses propres paroles semblaient venir de très loin. Il lui faudrait juste espérer que Patrick avait compris. Le garçon sans langue avait sorti son bloc, du moins, et un crayon fraîchement taillé.
« Voilà ma meilleure protection. »
murmura l'esprit de Roland alors qu'il retournait à son petit tas de peau entre le feu de camp et Ophat II.
Il ne s'endormira pas tant qu'il dessinera, pas vrai ?
Il espérait que non. Mais en fait, il n'en savait rien. Et ça n'avait pas d'importance parce que Roland de Gilead allait dormir de toute façon. Il avait fait de son mieux et il faudrait bien que ça suffise.
« Une heure, »
marmonna-t-il. Et sa voix était petite et lointaine à ses oreilles.
« Réveille-moi dans une heure, quand la vieille mère passera derrière. »
Mais Roland ne put terminer. Il ne savait même plus ce qu'il disait. L'épuisement s'empara de lui et le transporta en un éclair au plus profond d'un sommeil sans rêve. 7. Mordred assista à toute la scène à travers les lunettes porte-loin. Sa fièvre était montée en flèche et dans cette flamme vive et soudaine, son épuisement à lui avait momentanément disparu. C'est avec grand intérêt qu'il vit le pistolero réveiller le muet, l'artiste, et le malmener pour qu'il l'aide à refaire du feu. Il regardait le muet, attendant impatiemment qu'il ait fini sa corvée et retourne dormir avant que le pistolero ait pu l'en empêcher. Mais ce ne fut pas le cas, malheureusement. Ils avaient établi leur campement près d'un bosquet de peupliers morts, et Roland avait conduit l'artiste près du plus gros arbre. Il avait tendu le bras vers le ciel. Il était constellé d'étoiles, mais Mordred supposa que le vieux papa blanc pistolero désignait la vieille mère parce que c'était l'astre le plus brillant. L'artiste, qui n'avait pas l'air bien gâté par la nature, du moins au niveau du cerveau, avait fini par comprendre. Il avait sorti son bloc et s'était déjà mis au travail quand vieux papa blanc était allé s'isoler un peu plus loin d'un pas trébuchant, marmonnant toujours ses instructions et ses ordres, auxquels il était évident que l'artiste ne prêtait strictement aucune attention. Vieux papa blanc s'était effondré avec une telle rapidité que Mordred avait craint un instant que le vieux bout de lard qui servait de cœur à ce vieux salaud ait finalement lâché. Puis Roland s'était retourné dans l'herbe, se calant plus à son aise. Et Mordred, allongé sur un monticule à une centaine de mètres à l'est du lit asséché, avait senti son propre rythme cardiaque ralentir. Et quel que fût l'épuisement du vieux papa blanc pistolero, son apprentissage et sa longue lignée, qui remontait aussi loin qu'Arthur l'aîné lui-même, suffirait à le faire s'éveiller en sursaut, l'arme à la main, à la seconde où l'artiste vociférerait un de ses cris indistincts mais infernaux. Mordred fut saisi de crampes, les plus fortes jusqu'à maintenant. Il se courba en deux, luttant pour garder sa forme humaine, luttant pour ne pas hurler, luttant pour ne pas mourir. Il entendit un autre de ces longs gargouillis venus d'en bas et sentit un flot de liquide brun et grumeleux lui dégouliner le long des jambes. Mais son odorat surnaturel ne sentit pas que l'odeur d'excréments dans cet amas désastreux. Cette fois-ci, il sentit l'odeur du sang se mêler à celle de la merde. Il se dit que la douleur ne cesserait jamais, qu'elle irait croissant jusqu'à le déchirer en deux, mais elle finit par se relâcher quelque peu. Il jeta un œil à sa main gauche et ne fut pas totalement surpris de constater que les doigts en avaient noirci et s'étaient soudés les uns aux autres. Il ne reprendrait jamais allure humaine, ces doigts-là. Il avait l'intuition qu'il ne lui restait plus qu'une métamorphose en lui. De la main droite, Mordred essuya la sueur sur son front et porta de nouveau les bilunettes à ses yeux, priant son papa rouge que cet idiot de muet se soit endormi. Mais non. Il était appuyé contre son peuplier et observait la vieille mère, baissant la tête toutes les 3 ou 4 secondes pour compléter son dessin. C'est à cet instant que Mordred des chaînes s'approcha le plus près du désespoir. Tout comme Roland, il pensait que dessiner était la chose qui avait le plus de chances de garder cet idiot éveillé. Alors pourquoi ne pas céder à la métamorphose alors qu'il pouvait encore profiter de l'énergie destructive de sa dernière poussée de fièvre et l'utiliser comme carburant? Pourquoi ne pas tenter sa chance? C'était Roland qu'il voulait après tout, pas le gosse. Sous sa forme araignée, il pouvait sans doute se jeter sur le pistolero assez rapidement pour l'arracher au sol et le précipiter dans sa bouche à vide. Vieux papa blanc lâcherait peut-être un coup de feu, voire deux, mais Mordred pensait pouvoir en encaisser un ou deux si les petits missiles de plomb ne dénichaient pas l'excroissance blanche sur le dos de l'araignée, le cerveau de son corps double. « Et une fois que je le tiendrai... « Je ne le lâcherai que quand il sera saigné à blanc, plus qu'une momie desséchée comme l'autre, Mia. » Il se détendit, s'apprêta à laisser la métamorphose s'emparer de lui. Puis une autre voix s'éleva à l'intérieur de sa tête. C'était la voix de son papa rouge, celui emprisonné sur le flanc de la tour sombre, qui avait besoin de Mordred vivant, du moins pour encore un jour, pour que Mordred vienne libérer son père.
« Attends encore un peu, » conseilla la voix. « Encore un petit peu. Je n'ai peut-être pas encore abattu toutes mes cartes. Je lui réserve une surprise. Attends, attends encore un peu. »
Mordred attendit, et au bout de quelques secondes, il sentit la pulsation de la tour sombre se transformer. 8. Patrick sentit ce changement lui aussi. Le pouls se fit apaisant, et des mots voguaient sur l'onde, des mots qui émoussaient son désir de dessiner. Il traça encore un trait, puis s'interrompit. Il posa son crayon par terre et se mit à fixer la vieille mère qui semblait pulser en cadence avec les mots dans son esprit. Ces mots que Roland aurait reconnus. Sauf qu'ils étaient chantés par une voix de vieillard, chevrotante mais douce. « Petit oiseau, mon doux chéri, voilà qu'un autre jour finit. Que tes rêves soient doux et gais, que tu rêves de chants et de baies. Petit oiseau, bébé adoré, amène donc ici ton panier. Va, cours, vole, et rapporte de quoi remplir ton panier. » La tête de Patrick se mit à dodeliner. Ses yeux se fermèrent, se rouvrirent, puis ses paupières glissèrent de nouveau. « De quoi remplir mon panier ?» se dit-il avant de s'endormir, à la lueur du feu. 9. « Maintenant, mon cher fils, » chuchota la voix froide dans le cerveau en ébullition de Mordred, « maintenant, empare-toi de lui. » Et assure-toi qu'il ne se réveille jamais de son sommeil. Massacre-le au milieu des roses, et nous gouvernerons ensemble. »
Mordred sortit de sa cachette, laissant tomber les jumelles d'une main qui n'avait plus rien d'une main. Et tandis qu'il se transformait, un immense sentiment de confiance l'envahit. Dans une minute, il en aurait fini. Ils dormaient tous les deux et il était impossible qu'il manque son coup. Il se précipita vers le campement et les hommes assoupis, cauchemar noir sur sept pattes, la bouche claquant dans l'air.
10. Quelque part à 1000 kilomètres de là, Roland entendit un aboiement, puissant et impérieux, plein de fureur et de sauvagerie. Son esprit épuisé tenta de s'en détourner, de l'effacer et de s'enfoncer plus profond. Puis il y eut un effroyable cri de souffrance qui le réveilla en sursaut. Il reconnaissait cette voix, même à ce point transformé par la douleur. « Ôté !» hurla-t-il en bondissant. « Ôté, où es-tu ? À moi ! À... » C'est alors qu'il le vit, se débattant dans l'étreinte de l'araignée. Ils étaient tous deux clairement visibles dans l'éclat des flammes. Derrière eux, toujours assis contre son tronc d'arbre, Patrick jetait un regard stupide à travers le rideau de ses cheveux qui seraient bientôt sales à nouveau, à présent que Susanna était partie. Le bafouilleux se tordait vigoureusement d'avant en arrière, plantant les crocs dans le corps de l'araignée, l'écume volant de ses babines alors même que Mordred faisait plier son dos selon un angle totalement contre nature.
S'il n'avait pas bondi des hautes herbes, se dit instantanément Roland, c'est moi qui serai entre les griffes de Mordred.
Ôté planta les crocs au plus profond d'une des pattes de Mordred. À la lueur du feu, Roland vit les muscles de la mâchoire du bafouilleux se gonfler comme deux petits œufs de caille lorsqu'il ajusta son emprise pour mordre plus profond encore. La chose poussa un mugissement et relâcha son emprise. À cet instant, Ôté aurait pu se libérer si tel avait été son choix. Il en décida autrement. Au lieu de sauter à terre et de s'enfuir en cette seconde de liberté qui lui était accordée avant que Mordred reprenne ses esprits et se venge, Othée choisit ce moment pour tendre son long cou et aller mordre l'endroit précis où l'une des pattes de la créature se rattachait à son corps démesuré. Il mordit au cœur de la chair, faisant jaillir un jet de liqueur d'un noir rougeâtre qui gicla de chaque côté de son museau. À la lumière du feu, le jet étincelait de flamèches oranges. Mordred poussa un hurlement de douleur. Il n'avait pas tenu compte d'Othée dans ses savants calculs, et il en payait à présent le prix. Dans la lumière orangée, les deux formes se tordaient comme des silhouettes de cauchemar. Tout près, Patrick poussait des hennissements de terreur. «
Cette espèce de fils de catin bon à rien s'est finalement endormi !»
se dit Roland avec amertume. « Mais qui lui avait confié ce tour de garde pour commencer ?»«
Lâche-le, Mordred !» brailla-t-il. « Lâche-le et je t'épargnerai encore un jour. Je le jure sur le nom de mon père !»
Des yeux rouges, pleins de folie et de malveillance, étincelant au-dessus du corps contorsionné d'Othée, le fusillèrent. Et plus haut, suspendu au-dessus de la courbe de l'échine de l'araignée, il aperçut de minuscules yeux bleus, à peine plus gros que des têtes d'épingle. Et ces yeux-là fixaient le pistolero avec une haine on ne peut plus humaine.
« Ce sont mes propres yeux !»
songea Roland avec consternation. Puis il entendit un craquement sec, la colonne vertébrale d'Othée. Mais malgré ce coup mortel, le bafouilleux ne desserra pas une seconde l'étau qui emprisonnait l'articulation de Mordred, bien que les poils durs comme l'acier lui aient déjà arraché une bonne partie du museau, dénudant ses dents affûtées qui s'étaient parfois refermées avec douceur sur le poignet de Jake, attirant le jeune garçon vers quelque chose que le bafouilleux voulait lui montrer. « Hack !» jappait-il dans ces moments-là. « Hack ! Hack !» La main droite de Roland bondit sur son holster et le trouva vide. Ce n'est qu'alors, des heures après son départ, qu'il se rendit compte que Susanna avait emporté une de ses armes avec elle dans l'autre monde.
« Bien, se dit-il, très bien. Car si ce sont bien les ténèbres qu'elle a trouvées, il y aura 5 balles pour ce qu'elle y rencontrera et 1 pour elle. Très bien. »
Mais cette pensée avait aussi quelque chose de lointain et d'assourdi. Il dégaina l'autre revolver au moment où Mordred s'accroupissait sur son arrière-train et dégageait la patte du milieu, la seule qui lui restait, l'enroulant autour du ventre d'Othée et arracha l'animal toute d'en dehors de sa patte sanguinolente. L'araignée fit tournoyer le petit corps en une spirale effroyable. Pendant un instant, il voila l'éclat vif de la vieille mère. Puis il lança violemment Othée au loin et Roland eut une sensation fugitive de déjà-vu, se rappelant qu'il avait entrevu cette fin bien longtemps auparavant dans le cristal du magicien. Othée décrivit un arc dans la pénombre injectée d'étincelles et alla s'empaler sur une des branches de peuplier que le pistolero lui-même avait cassé pour le feu. Il émit un jappement déchirant, un cri de mort, puis resta suspendu, désarticulé et immobile au-dessus de la tête de Patrick. Mordred se jeta immédiatement sur Roland, mais son assaut se fit en une course lente et confuse. Il s'était fait arracher une patte d'une balle peu après sa naissance, et à présent une autre pendait, flasque et brisée, les pinces s'ouvrant et se refermant en spasmes involontaires, entraînant dans l'herbe. L'œil de Roland n'avait jamais été plus vif, jamais plus profond le halo glacial qui l'entourait dans ces instants-là. Il vit l'excroissance blanche et les yeux bleus de Bombardier, ses yeux à lui. Il vit le visage de son fils unique l'observer du haut de cette abomination qu'il était, puis disparaître dans une gerbe de sang lorsque la première balle le transperça. L'araignée se redressa, brandissant ses pattes monstrueuses vers le ciel noir constellé d'étoiles. Les 2 balles suivantes allèrent se planter dans son ventre découvert et ressortir dans le dos, faisant jaillir un sillage liquide et sombre. L'araignée bascula sur le côté, essayant peut-être de s'enfuir, mais ses pattes ne pouvaient plus la porter. Mordred des chaînes s'effondra dans le feu, soulevant une gerbe d'étincelles orange et écarlate. Il se tordit au milieu des braises, les poils raides de son ventre prirent feu, et Roland, un rictus plein d'amertume aux lèvres, lui tira de nouveau dessus. L'araignée mourante roula sur le dos hors du feu éparpillée sur le sol. Ses pattes restantes s'enroulant en un nœud avant de s'écarter violemment en croix. L'une d'elles tomba dans le feu et s'enflamma. L'odeur était atroce. Roland se précipita en avant dans le but d'étouffer le petit feu qui avait démarré dans les broussailles, et c'est alors qu'un mugissement de rage éclata dans sa tête.
« Mon fils, mon seul fils, tu l'as assassiné. »«
C'était aussi le mien, »
dit Roland en regardant le monstre en train de se consumer. Il pouvait reconnaître cette vérité.
Oui,
il pouvait au moins faire ça.
Viens donc, tueur de fils, voir ta tour. Mais sache une chose, tu mourras de vieillesse au bord du Kanka avant d'avoir pu en toucher ne serait-ce que la porte. Jamais je ne te laisserai passer. Les ténèbres du Vahadash me frapperont avant que je te laisse passer, toi, assassin, meurtrier de ta mère, meurtrier de tes amis. Si fait de tous, car Susanna baigne dans son sang, la gorge tranchée de l'autre côté de cette porte par laquelle tu l'as renvoyée. Et à présent, meurtrier de ton propre fils,
« qui me l'a envoyé ?»
demanda Roland à la voix dans sa tête.
« Qui a envoyé cet enfant là-bas, car c'est ce qu'il est sous cette carapace noire ?»« Qui l'a envoyé droit à sa mort, espèce de rat vicieux écarlate ?»
Roland ne reçut aucune réponse. Aussi rengaina-t-il son arme et éteignit-il le début de feu avant qu'il pût s'étendre. Il repensa à ce que la voix avait dit au sujet de Susanna et décida de ne pas y croire. Elle était peut-être morte, si fait. C'était possible. Mais selon lui, le père rouge de Mordred n'en savait pas plus que lui à ce sujet. Le pistolero laissa cette pensée vagabonder et se dirigea vers l'arbre auquel pendait le reste de son cas-tête, empalé, mais toujours vivant. Les yeux cerclés d'or regardèrent Roland avec ce qui ressemblait presque à de l'amusement là.
« Ôtez !»
murmura Roland en tendant la main, sachant qu'il se ferait peut-être mordre, mais s'en moquant totalement. Il se dit qu'une partie de lui, une partie conséquente qui plus est, voulait qu'il se fasse mordre.
« Ôtez !» Nous te disons tous grand merci. Je te dis grand merci, Othé.
Le bafouilleux ne le mordit pas et prononça son dernier mot.
Olan,
dit-il simplement. Puis il poussa un soupir, lécha la main du pistolero une seule fois, baissa la tête et mourut. 11. Les faibles lueurs de l'aube blanchirent et s'épanouirent. Et c'est alors que Patrick s'approcha, hésitant, de l'endroit où était assis le pistolero. Dans le lit asséché de la rivière, entouré de roses, il avait déposé le corps d'Othé sur ses genoux comme une étole. Le jeune homme émit un couinement doux et interrogateur.
« Pas maintenant, Patrick, »
dit Roland d'un air absent, en caressant la fourrure d'Othé. Elle était dense mais douce au toucher. Il eut du mal à croire que la créature qu'elle recouvrait n'était plus, en dépit des muscles raidis et des amas de poils collés par le sang coagulé. Il les lissa de ses doigts du mieux qu'il put.
« Pas maintenant. Nous avons toute la journée pour aller là-bas, et nous y arriverons sans peine. »
Non, il n'y avait aucun besoin de se dépêcher. Aucune raison de ne pas pleurer le dernier de ses morts autant qu'il le voulait. La voix du vieux roi était catégorique lorsqu'il avait juré que Roland mourrait de vieillesse sans avoir pu toucher la porte au pied de la tour. Ils iraient là-bas, bien sûr, et Roland étudierait le terrain, mais il savait dès à présent que son plan de s'approcher de la tour à l'insu du vieux monstre et de se frayer ensuite un chemin jusqu'à lui n'était pas un plan du tout, mais une douce illusion. Pas l'ombre d'un doute dans la voix de ce vieux traître, pas de doute se cachant non plus derrière. Et pour l'instant, rien de tout ça n'avait la moindre importance. Il tenait là encore un autre de ses amis, encore un ami qu'il avait tué, et la seule consolation qu'il put en tirer fut la suivante. Othé serait le dernier. À présent, il se retrouvait seul avec Patrick. Mais le pistolero avait dans l'idée que le jeune homme était immunisé contre ce microbe terrible qu'il portait en lui, car jamais il n'avait fait partie d'un cathète.
« Je ne tue que ma famille »,
songea Roland en caressant le bafou bafouilleux mort. Ce qui lui fit le plus mal fut de se remémorer la méchanceté avec laquelle il s'était adressé à Othé la veille encore.
« Si tu voulais partir avec elle, tu aurais dû le faire quand tu en avais l'occasion. »
Était-il resté parce qu'il savait que Roland aurait besoin de lui? Que venue l'heure critique, quand il faudrait se mettre une pile, pour reprendre l'expression d'Eddie, Patrick faillirait?
« Pourquoi poser sur moi ce regard de Houken triste maintenant ?»
Parce qu'il savait que c'était son dernier jour. Et que sa mort serait atroce.
Je crois que tu savais tout,
dit Roland en fermant les yeux pour mieux sentir le contact de la fourrure entre ses doigts.
Je suis tellement désolé de t'avoir parlé ainsi. Je donnerai les doigts de ma bonne main pour retirer ces paroles. Si fait, tous mes doigts, je dis vrai.
Mais ici, comme dans le monde clé, le temps ne s'écoulait que dans un sens. Impossible de revenir en arrière et de retirer ses paroles. Roland aurait dit qu'il ne ressentait plus de colère, qu'elle avait brûlé jusqu'à la dernière étincelle, mais lorsqu'il ressentit le fourmillement sur sa peau et comprit ce qu'il signifiait, il sentit une vague de fureur toute neuve le terrasser. Et il sentit ce halo glacial s'installer dans ses mains fatiguées, mais toujours dotées d'un talent hors du commun. Patrick était en train de le dessiner. Assis sous son peuplier, comme si une petite créature courageuse qui en valait 10 comme lui, non, 100, ne venait pas de mourir dans cet arbre même, et pour les sauver tous les deux.
C'est sa voix ?
Dit Susanna d'une voix douce et calme au cœur de son esprit.
C'est tout ce qu'il a. On lui a retiré tout le reste. Son monde, sa maison, sa mère et même sa langue. Et aussi le peu de cervelle qu'il avait peut-être autrefois. Lui aussi est en deuil, Roland. Et il a peur, lui aussi. C'est le seul moyen qu'il ait de s'apaiser un peu.
La voix de la vérité à n'en pas douter. Mais la vérité de ses propos, loin de calmer sa colère, ne fit que l'embraser. Il posa le revolver qui lui restait à côté de lui, et il renvoyait ses reflets métalliques entre deux roses chantantes. Car l'avoir à portée de main était risqué, dans son état d'esprit présent. Puis il se remit debout. Dans l'intention d'aller passer à Patrick le savon de sa vie, ne serait-ce que pour la bonne et simple raison que le pistolero se sentirait un peu mieux après. Il se répétait déjà intérieurement les premiers mots qu'il prononcerait.
« Tu aimes dessiner ce qui te sauve la vie. Ta vie insignifiante, espèce de crétin. Ça te fait chaud au cœur ?»
Il les avait sur le bout de la langue et s'apprêtait à les laisser échapper lorsque Patrick posa son crayon pour s'emparer de son nouveau jouet. Il ne restait déjà plus que la moitié de la gomme, et il n'y en avait pas d'autre. Tout comme l'autre pistolet de Roland, Susanna avait emporté les petites boules de caoutchouc rose, sans autre raison que le simple fait qu'elle gardait sur elle le bocal en verre. Son esprit était occupé par des sujets bien plus importants que ses gommes, alors. Patrick abaissa la gomme sur sa feuille, puis leva les yeux. Peut-être pour vérifier qu'il souhaitait vraiment effacer, et aperçut le pistolero, debout dans le lit de la rivière, qui le regardait en fronçant les sourcils. Patrick sut immédiatement que Roland était en colère, même s'il aurait sans doute été bien en peine de deviner pourquoi, et son visage se tordit de peur et de tristesse. Roland le vit alors tel que Dandelot avait dû le voir encore et encore, et sa colère retomba subitement. Il n'était pas question que Patrick le craigne. Ne serait-ce qu'au nom de Susanna, il ne tolérerait pas que Patrick le craigne. Et il se rendit compte que c'était en son nom à lui. « Pourquoi ne pas le tuer alors ?» lança la voix vicieuse qui battait sous son crâne. « Tue-le et mets fin à ses souffrances, si tu as de tels accès de tendresse à son égard. Lui et le bafouilleux pourraient pénétrer ensemble dans la clairière et te préparer une place, pistolero !» Roland secoua la tête et essaya de sourire.
« Nenni, Patrick, fils de Sonia, » dit-il,
car c'est ainsi que Bill le robot avait appelé le garçon.
« Nenni, j'avais tort, une fois encore, et je ne te gronderai pas. »
Mais il rejoignit le garçon. Patrick se recula loin avec un sourire de chien battu qui fit monter une nouvelle vague de colère dans le cœur de Roland, mais cette fois-ci il réprima cette émotion sans trop de mal. Patrick aussi avait aimé ôter, et dessiner était son seul moyen de faire face au chagrin. Mais Roland s'en souciait peu pour l'instant. Il se pencha et prit doucement la gomme des mains de Patrick. Le jeune garçon lui adressa un regard interrogateur, puis tendit sa main vide, suppliant des yeux qu'on lui rende son jouet merveilleux et tellement utile.
« Nenni, » dit Roland aussi gentiment qu'il put, « tu t'es débrouillé pendant les dieux savent combien de temps, sans même soupçonner l'existence de ces choses-là. Tu pourras bien tenir jusqu'à la fin de la journée, je pense. » Et il se peut que tu aies quelque chose à dessiner, puis à effacer, plus tard. Est-ce que tu intuites, Patrick ?
Patrick n'intuitait pas. Mais une fois la gomme rangée à l'abri dans la poche du pistolero, il parut l'oublier et se remit tout bonnement à dessiner.
« Mets aussi ton bloc de côté pendant un petit moment, » lui dit Roland.
Patrick s'exécuta sans se faire prier. Il tendit le doigt vers le chariot, puis vers la route de la tour, et émit un de ses coups de klaxon interrogatif.
« Si fait, » acquiesça Roland. « Mais d'abord, nous devons inspecter le Guna de Mordred. Nous y trouverons peut-être quelque chose d'utile. Et enterrer notre ami. Veux-tu bien m'aider à mettre ôter en terre, Patrick ?»
Patrick était tout disposé à l'aider, et l'enterrement ne prit pas longtemps. Ce corps était bien plus petit que le cœur qu'il contenait. En milieu de matinée, ils avaient repris la route et parcouraient les derniers kilomètres qui les séparaient encore de la tour sombre. Et voilà, on s'arrête pour aujourd'hui.